Le retour fut un bonheur. Je regardais chaque journée qui me rapprochait de chez moi comme un don précieux. Pourtant, le voyage se révéla bien plus pénible qu'il ne l'avait été dans l'autre sens. Nous essuyâmes de gros orages qui mirent le bateau à mal. Finalement, devant l'île de Corse, un dernier grain nous drossa contre des rochers. Je faillis me noyer, emporté par les rouleaux. En me débattant dans l'écume, ma main gauche se planta contre ces animaux de mer semés d'épines qui prolifèrent sur les fonds et les rochers. Plusieurs dizaines de petites pointes noires se plantèrent dans ma chair. Nous ne fûmes secourus par les habitants de l'île que pour tomber dans une infortune plus grande. Un soi-disant prince, bandit sans honneur qui règne sur ses côtes, s'empara de tous nos biens et nous jeta en prison. Nous y restâmes plusieurs semaines, en attendant qu'une rançon fût payée par Vidal. Finalement, nous sommes arrivés à Aigues-Mortes au commencement de l'hiver. Ma main avait enflé et l'infection s'y était mise. À un moment, je craignis de la perdre et même la vie. Quand je parvins à la guérison, je compris que ces craintes m'avaient préservé du regret d'avoir été délesté de tout. Avant la Noël, je repris avec Gauthier la route du Rhône pour rentrer dans notre ville, et j'étais sans le sou. Vidal espérait être payé de nos pertes par une lettre de marque. Dès qu'il l'aurait obtenue, et il l'obtint, des corsaires pourraient attaquer des bateaux appartenant à la nation qui nous avait dépouillés. Le butin nous servirait de compensation. Ce procédé était efficace et atténuait les risques de la navigation. Cependant, il était lent et n'empêchait pas que, dans l'immédiat, nous fussions ruinés. Le plus étrange est que ce dénuement, loin de m'accabler, me remplit d'un plaisir inattendu. Je me sentais nu comme un nouveau-né. Et en effet, c'était à une nouvelle vie que je naissais. J'avais fait le deuil de mes rêves et je les avais remplacés par des souvenirs. Je revenais plein de projets ambitieux, plus riche que si j'avais porté avec moi quelques pièces de soierie ou des ballots d'épices. Ma richesse était encore invisible, en devenir. Je scellais en moi ce bien précieux, monnaie dont je ne savais encore ce qu'elle me permettrait d'acquérir, mais j'avais confiance. De Montpellier, j'avais envoyé par un courrier un message à Massé. Je savais qu'elle m'attendait. Les dernières semaines, le désir d'elle me brûlait. Ma main grêlée de cicatrices me laissait le souvenir d'avoir caressé le diable. La pensée de cette épreuve donnait d'autant plus de prix à la douceur. Je criais dans mon sommeil. Ma main valide se tendait vers la peau blanche et douce de Massé, cherchant à échapper à la fourrure blessante de la bête qui me poursuivait dans l'eau des songes. Le vent sur la plaine était contraire et nos montures luttaient d'un pas fatigué. L'arrivée fut un interminable calvaire pendant lequel la cathédrale, dont les tours affleuraient à l'horizon, semblait ne jamais devoir approcher. Enfin, il y eut notre pas sonore dans les rues obscures et vides, les coups frappés à la porte, le Judas qui s'ouvrit, puis les larmes, les cris, les caresses. La nuit fut pleine d'un plaisir si longtemps attendu qu'il en devenait douloureux. Il nous fallut près d'une semaine pour tresser de nouveau nos vies l'une à l'autre. Je racontai tout, et Massé fit revivre pour moi les mille événements du petit monde immobile qui m'avait attendu.